Puisque tu viens d'avoir 12 ans, Blanche, je t'ai enregistré ce livre, j'espère que tu ne le connais pas. Il s'appelle « Pilote de l'Alaska ». Il a été écrit par K.A. Schwarzkopf, en suédois à l'origine. L'Alaska est un pays très très lointain, tout à fait en haut et à gauche sur une carte de l'Amérique, un pays où il n'y a pas de route, où il n'y a pas de train. Le seul moyen de se déplacer, quand on veut aller plus vite qu'à pied, c'est de voyager en avion. Et tu vas voir les exploits extraordinaires des pilotes de ce pays. Voici donc la première cassette, première face. Introduction. Un vieux peau rouge est assis à la lisière du champ d'aviation de McGrath, M-A-C, plus loin G-R-A-T-H. Il ne porte ni parure de plume, ni vêtements bariolés. Il est enveloppé d'une couverture et son visage est celui d'un sage. Monsieur Alaska, c'est le nom que lui donnent les gens de McGrath, est devenu une sorte de monument faisant partie du paysage. Il sert de point de repère aux aviateurs. S'il est à sa place et s'il fait signe, tout va bien. S'il est absent, c'est un mauvais présage et les pilotes préfèrent ne pas décoller. Ceux que l'on appelle les aviateurs de brousse sont ainsi faits. En dépit de leur qualité professionnelle et de leur courage, ils conservent à l'égard du surnaturel, de l'inexplicable, un peu de cette crédulité dont ne peuvent se défaire les gens qui vivent près de la nature. L'Alaska, A-L-A-S-K-A, est un pays vaste et jeune. Comme tu le sais, c'est un des États des États-Unis, mais qui était séparé du reste des États-Unis par le Canada. Il se trouve tout à fait au nord-ouest de l'Amérique du Nord et n'est séparé de la Sibérie que par le détroit de Bering. Les terres inhabitées de l'Alaska s'étendent sur des milliers de kilomètres. L'ours et l'élan flânent tranquillement dans les forêts et sur les montagnes, et des chercheurs d'or lavent encore le métal à la main. Autrefois, le traîneau à chien et le canoë étaient les seuls moyens de communication. Maintenant, l'avion les a remplacés. Il s'est ainsi constitué tout un corps d'aviateurs de brousse. Ces hommes ont l'aventure dans le sang. Ils se débattent tous les jours contre le froid et la tempête, le mauvais temps et les cartes incomplètes. C'est leur effort qui a rendu l'Alaska habitable, leur courage qui donne à ce pays son caractère exceptionnel. Chapitre 1er, vers l'aventure. John Cross, C-R-O-2-S, vint en Alaska, invité par son oncle maternel, Joseph Grumman, G-R-U-M-A-2-N, qui possédait à McGrath une petite compagnie aérienne. En effet, Joseph avait besoin d'un aviateur de plus pour l'été. Voici donc ce qu'il écrivit à John. « Mon cher bandit de neveu, ne t'imagine pas que je te prenne pour un as, mais une chance s'offre à toi de devenir un homme. J'ai besoin d'un excellent aviateur pour des transports de minerais et actuellement, on a du mal à trouver des gens sachant piloter sur ce vieil Alaska. Certes, tu n'as piloté que des avions à réaction et autres joujoux du même acabit, mais on ne peut pas trop demander à un gamin de 23 ans. Si mon offre t'intéresse, envoie-moi une dépêche et prends le premier avion pour la ville d'Anchorage, A-N-C-H-O-R-A-G-E, au sud de l'Alaska. Tu trouveras là un homme qui fera le nécessaire pour que tu prennes quelques leçons sur un avion Junker à 3 moteurs que j'ai loué pour le transport du minerai. Telle est la chance qui s'offre à toi. Si tu la rates, je te tordrai le cou la prochaine fois que nous nous rencontrerons. Bon souvenir, ton vieux fou d'oncle Joseph. John avait lu la lettre trois fois, en riant de plus en plus fort. Il réfléchit cependant. Après trois années de service militaire, il avait l'intention de chercher du travail dans une grande compagnie d'aviation civile. Pourquoi ne pas s'offrir 6 mois en Alaska auparavant ? Certes, il s'était souvent moqué de ces pauvres aviateurs de brousse, mais au fond de son cœur, il les avait enviés. L'Alaska est fait pour les gens qui n'ont pas froid aux yeux. Son oncle en était un magnifique exemple. John avait donc télégraphié « Ok, j'arrive ». Et 2 jours plus tard, il s'embarquait pour Anchorage à bord d'un DC-6. L'Alaska était plus loin qu'il ne l'avait imaginé. Et il avait été surpris en survolant les immenses chaînes de montagnes. Pendant des heures, ils avaient glissé au-dessus de glaciers crevassés et de sommets pointus. Pas une maison, pas une route, pas la moindre trace de civilisation. Il avait poussé un grand soupir de soulagement en atterrissant enfin à Anchorage, jolie petite ville moderne blottie au fond d'une baie tout au nord de l'océan Pacifique. Sur la carte, il avait constaté que McGrath se trouvait plus au nord-ouest, à peu près à mi-chemin entre Anchorage et le détroit de Bering. La région semblait être un marais sans fin, constellé d'étangs. À 150 km à l'est de McGrath, s'étendait une immense chaîne de montagnes, les monts McKinley, M-A-C, près d'Union K-I-N-L-E-Y, 6200 mètres d'altitude, les sommets les plus élevés de l'Amérique du Nord. John commençait à réaliser que piloter dans ce pays ne serait pas une sinécure. L'avion, un Junker à 3 moteurs, fut pour lui une nouvelle et étrange découverte. Même en rêve, John n'avait pas imaginé qu'il existât encore sur Terre des machines aussi archaïques. Habitué à piloter des avions à réaction, John avait l'impression qu'on lui demandait de faire voler une locomotive. Mais il se rendit bientôt compte que ce zinc avait de la personnalité et une endurance que bien des avions modernes auraient pu lui envier. Au bout de 3 jours d'exercice, John adorait déjà le vieux Junker. Il obtint des autorités de l'air un permis spécial pour l'Alaska, et par une belle matinée ensoleillée de juin, il décolla de l'aérodrome d'Anchorage pour se diriger vers le terrain de McGrath. Atterrissage mouvementé. John chantait en survolant les immenses étendues. De temps en temps, il jetait un coup d'œil dans le bout de miroir qu'un prédécesseur coquet avait fixé près de la place du pilote. Il commençait à avoir fière allure. Une barbe de 3 jours donnait un air impertinent à son menton. Ses yeux étaient un peu trop bleus, mais en les frottant, il parviendrait bien à les faire rougir. Ses cheveux en désordre n'étaient que plus beaux. Quant aux taches d'huile sur ses joues, elles n'auraient pas été mieux placées par un maquilleur professionnel. Le Junker chantait aussi. Un chœur à 3 voix, 3 moteurs, qui résonnait dans la grande carlingue vide. Il y avait bien sûr quelques caisses et un sac postal, mais ces objets faisaient encore ressentir davantage le vide de l'appareil, et l'unique passagère qui occupait le siège à côté du pilote paraissait d'autant plus volumineuse. C'était la vieille mère Chigalutna, C-H-I-G-A-L-U-T-N-A, une peau rouge de McGrath. Elle s'était rendue à l'hôpital pour soigner un anthrax et avait saisi cette occasion pour rentrer gratuitement chez elle. Elle bavardait sans arrêt d'une voix aiguë et chantante, mais John ne comprenait rien à ce qu'elle disait. Il pensa toutefois que l'abcès n'avait certainement pas été situé dans sa gorge. John volait à 1800 mètres d'altitude pour éviter les contreforts du mont McKinley. L'impressionnant paysage montagneux étincelait sous la neige et la glace. C'était à la fois inquiétant et attirant. Pilote d'avion à réaction, John avait du respect pour les montagnes. Il connaissait bien les vents dangereux qui les sillonnent et il pensait aux embûches qu'un colosse comme le mont McKinley peut réserver à un Junker lourdement chargé. Quelques trous d'air faisaient plonger l'avion, et chaque fois, John serrait instinctivement le manche. Quand il survola les marécages à l'ouest des montagnes, il sortit l'émetteur de radio et appela McGrath. « Ici NMD6, ici NMD6, à vous, parlez !» Aucune réponse. Un grésillement dans l'écouteur, et puis plus rien. John répéta l'appel. Il attendit quelques minutes et répéta encore une fois. Mais personne ne répondit. Il commençait à s'énerver. Même si le terrain était petit, il devait y avoir quelqu'un pour enregistrer les appels. Il décida de se plaindre à son oncle. « Allô, McGrath ! Allô, McGrath ! NMD6 attend une réponse ! NMD6 attend une réponse ! À vous, parlez !» Sa voix lui parut terrible. Pris de colère, il se sentait les joues brûlantes. Il allait falloir apprendre à ses endormis comment veiller convenablement sur un service de radio. Brusquement, les écouteurs s'animèrent. On aurait dit que quelqu'un prenait un chargement de chaîne et une voix tonitruante perça le bruit. « Qu'est-ce que c'est que ce boucan ? Avez-vous mal au ventre là-haut ?» John resta bouche bée. Jamais il n'avait entendu pareille réponse à un appel. La voix continua. « Si c'est McGrath que vous voulez attraper, mettez la bonne longueur d'onde, nom d'une pipe. Ici, c'est la station missionnaire de Kuskokwim, Kuskokwim, sur la côte. Doit y avoir des blancs becs en l'air, qu'est-ce que ça veut dire ?» John sentit son visage s'empourprer. Il venait de faire une belle gaffe. Il avait oublié de régler la longueur d'onde. Voilà ce qui arrive quand on a l'habitude de piloter un avion à réaction sur lequel on obtient les longueurs courantes en appuyant sur un bouton. Il tourna le chercheur d'ondes et trouva McGrath. Il lui suffit d'appeler deux ou trois fois pour recevoir une réponse. « John Cross à l'appareil ?»« Sois le bienvenu. Ici le radio Hassel à McGrath. »« J'ai écouté quand tu as parlé avec Kuskokwim. Ha ha !» Ça arrive dans les meilleures familles. Nous t'attendions justement. La cafetière est sur le feu et le temps est idéal. Vent faible d'ouest au sol. Aussi, prends la piste numéro 1. Et attention à William. À vous, parlez. Pardon, McGrath, mais qui est William? Parlez. Te présenterai une fois descendu. Pas le temps maintenant. Le café déborde. Terminé. Un grésillement dans les écouteurs. Et John raccrocha. Il lui sembla qu'il dégageait une faible odeur de café. Il coupa les gaz des deux moteurs latéraux pour entamer la descente. 1500, 1400, 1300, 1200, l'aiguille de l'altimètre tournait lentement. Le fleuve au bord duquel devait se trouver McGrath brillait sous le soleil au pied de longues collines boisées. John avait appris à Anchorage qu'il était difficile d'atterrir sur le terrain de McGrath. Il fallait éviter quelques collines traîtresses avant de pouvoir se poser. Il décida de décrire un cercle pour bien reconnaître les lieux. McGrath était là-bas, pas très séduisant aux yeux du monde extérieur. Quelques baraquements de tôle, deux hangars et un groupe de cabanes en rondins à 1 kilomètre en aval. Les environs n'étaient guère plus réjouissants. Des marécages coupés de forêts broussailleuses. Il se sentait oppressé et décida qu'un seul tour de reconnaissance suffirait. La mère Chigalutna bavardait plus que jamais. Elle gesticulait, ayant apparemment beaucoup de choses intéressantes à raconter. Il lui fit attacher sa ceinture de sécurité à grand-peine. Puis il coupa les gaz du dernier moteur et descendit en vol plané, survolant la masse sombre des arbres en direction du terrain. Tout à coup, il aperçut un pot rouge assis au bout de la piste qui lui faisait de grands signes. John donna plein gaz sur tous les moteurs et grimpa verticalement tout en décrochant l'écouteur pour appeler le terrain. Qu'est-ce qui ne va pas, MacGrath? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ces signaux au bout de la piste? À vous, parlez! Un rire formidable remplit l'écouteur. Ah, je vois, c'est Monsieur Alaska. Il ne représente aucun danger et fait partie du terrain d'aviation. Nous avons failli croire en te voyant remonter que tu avais attrapé un coup de soleil. Descends donc et ne fais pas attention à ces signes d'amitié. Ils en font toujours ici en Alaska. Grouille-toi avant que le café ne soit froid. John avala sa salive et décrivit un virage plus court que le premier. Cette fois, il survola la colline boisée avec quelques mètres de marge seulement et essaya de ne pas se cabrer devant les grands gestes que faisait le Peau Rouge. Le Junker glissa tranquillement vers la piste numéro 1. Il avait une stabilité que John n'avait jamais trouvée sur les avions qu'il avait pilotés auparavant. Une épaisse forêt bordait à côté du terrain et un petit ruisseau étincelant traversait la piste avec désinvolture. Mais que diable ! L'avion avait presque atterri, les roues semblaient s'étirer pour toucher le sol quand John enregistra une nouvelle surprise. Un grand élan sortit de la forêt et s'arrêta avec un parfait sans-gêne au beau milieu de la piste, face à l'avion qui approchait. Devant les situations inattendues, John avait les réflexes d'un aviateur militaire. Il agit automatiquement, redonna les gaz et tira sur le manche à balai. Le Junker se cabra et faillit se renverser. L'appareil fit un bond en l'air et passa si près des bois de l'élan que John crut entendre leur pointe craquer. Cette fois, il se fâcha pour de bon. Parvenu à l'altitude où il ne risquait plus de tomber, il décrocha le micro et cria si fort que les larmes lui en montèrent aux yeux. « Mais quelle est cette nouvelle surprise ?» Hassel, le radio, parut étonné en répondant « Mais calme-toi, John, calme-toi. Ça n'est que William. William, quel William ?»« Oui, William est le nom de notre élan. C'est notre mascotte. Il sort toujours de cette façon. C'est sa manière de saluer. Il se retire chaque fois à temps. Aussi, n'aie pas peur. Il connaît le truc pour se sauver juste au bon moment. Personne ne l'a heurté jusqu'ici. » « Ne crains rien, mais descends vite dire bonjour à William. Tant que nous l'avons, nous sommes sûrs de ne pas trouver d'ours sur le terrain. Dépêche-toi !» John inspira profondément, compta jusqu'à 3 pour se calmer, avant de répondre. « Entendu, Hassel. Je ferai de mon mieux. Je vais essayer de m'habituer à trouver aussi bien des élans, des ours ou des loups sur vos terrains d'atterrissage. Mais tu ne diras pas que c'est de ma faute si vous avez du rôti d'élan sauce Junker pour le dîner. Dernier message de NMD6. » La mère Chigalutna était particulièrement réjouie. Elle semblait se croire au cirque. John serra les dents et redescendit. Monsieur Alaska lui faisait signe, mais cette fois il n'y attacha aucune importance. Il n'avait Dieu que pour William, qui, avec une dignité superbe et cornue, restait toujours sur la piste numéro 1, face à l'avion, ses bois étendus comme des ailes de Junker. L'avion toucha le sol et fit un léger bond. Au même instant, John renversa l'hélice et freina sur les roues. Le Junker glissait avec un bruit sinistre dans l'argile et une eau boueuse l'éclaboussa jusqu'à la hauteur des hublots. Mais il roulait encore à toute allure, et la distance qui le séparait de l'étang diminuait de façon catastrophique avec chaque seconde. John sentait des gouttes de sueur le piquer comme des pointes d'aiguille. Il abaissa les battants des ailes pour utiliser au maximum toutes les possibilités de freinage de la lourde machine. L'élan restait calme et indifférent. John le vit grandir et finalement remplir la vitre. Il ne pouvait plus l'éviter, toute tentative de ce genre risquait de projeter la machine dans la forêt ou dans le fleuve. Il arrêta le moteur et se crispa, attendant la collision. L'avion serait certainement brisé, la carlingue aplatie, les ailes arrachées, le moteur laisserait s'écouler l'essence. Instinctivement, il ferma les yeux. Ça y est, ça y est. Mais rien ne se passa. Il entendit la mère Chigaloutna pouffer de rire et leva un regard interrogateur. L'élan avait disparu. La vieille montra un petit point derrière eux et un large sourire découvrit sa bouche édentée. Pas un cheveu n'était tombé de sa tête, ni un poil de celle de William. C'était inconcevable. John mordit sa lèvre inférieure pour ne pas montrer qu'elle tremblait. Il vira lentement devant les baraquements et stoppa l'avion. Un grand nombre de personnes s'étaient attroupées. Il reconnut son oncle, un géant vêtu de cuir, avec une énorme barbe rousse.
« Sois le bienvenu, John. Ne reste pas là à ouvrir des yeux ronds. Tu as fait un bel atterrissage. Est-ce que l'Alaska te plaît? Joli pays, hein? Quelle chance de voler ici pour un pauvre pilote d'avion à réaction de l'US Air Force. Remets-toi, gamin. T'as une tête d'enterrement. Allez, le café t'attend. Viens. »
John dégrafa sa ceinture de sûreté et aida la mère Chigaloutna à défaire la sienne. Comme il se levait de son siège, elle se pencha vers lui et lui cria à l'oreille.
« Jamais j'ai vu une chose aussi drôle. C'est la première fois que tu montes en avion ?»
John fit la grimace et descendit. Il se sentait tout à fait débutant dans la rue d'école des pilotes de l'Alaska. Le premier essai. Les chiens de traîneau hurlaient et tiraient sur leur harnais. Les peaux rouges jacassaient, le soleil brillait et Joseph Grumman n'avait jamais été plus joyeux.
Tu as eu peur de William, n'est-ce pas? Tu ne risquais rien, mon gars. On n'a jamais vu un type plus sûr sous une peau d'élan. Il garde le terrain comme un policier de Scotland Yard. Pas un rat des champs n'oserait montrer la tête. Jamais il n'a gêné l'atterrissage d'un avion. William connaît mille façons de s'esquiver. Si tu avais vu le saut à pieds joints qu'il a fait à ton approche, un éclat de rire monta de la table, sonore comme un coup de tonnerre. Se sentant rougir, John se cacha derrière la grande cafetière fumante. Il n'était pas encore bien remis de son atterrissage. Tout McGrath s'était réuni pour voir le nouveau venu. Groupés devant les baraquements, les peaux rouges bavardaient. Les blancs, eux, étaient installés dans la salle commune, autour d'une table grossièrement taillée à la hache. Joseph Grumman, le télégraphiste Hassel, H-A-2-S-E-L, le pilote esquimau Island Wheeler, I-L-A-N, plus loin W-H-2-E-L-E-R, le patron de la boutique, Barter Hayes, B-A-R-T-E-R, plus loin H-A-Y-E-S, la cuisinière Viola Swanson, V-I-O-L-A, plus loin S-W-A-N-S-O-N, et puis Alan, A-L-A-N. Alan était le second de Joseph Grumman et avait la réputation d'être le pilote le plus calé de l'Alaska. Sa joue droite était marquée de profondes cicatrices, traces laissées par les griffes d'un ours. Lui n'en parlait jamais, mais déjà, maintes anecdotes circulaient à ce sujet. Alan était un homme taciturne. Sa haute silhouette musclée faisait penser à celle d'un arbre, à un grand pin du Nord desséché. « Eh bien, est-ce que tous ces bandits te plaisent, John? Ne vont-ils pas te donner des cauchemars? Tu dois penser qu'aucun d'eux ne pourrait se promener dans les rues d'une ville des États-Unis sans être emmené au poste de police. Ha ha !» John se crut obligé de protester poliment. Et pourtant, il donnait raison à son oncle. Chacun de ces hommes aurait fait sensation aux États-Unis. Son oncle surtout. On aurait dit Vulcain échappé des enfers. Le pilote esquimau Island Wheeler, avec son bonnet à poils et son visage semblable à une lune, ne serait pas passé inaperçu. Et Barter Hayes. Les producteurs de Hollywood auraient sûrement donné tout l'or du monde pour qu'il consentît à jouer un rôle de bandit. Quant à Viola Swanson, si sa beauté n'était pas remarquable, elle semblait douée d'une force herculéenne. Elle devait être capable de jongler avec une douzaine de poils et une poignée de gaillards à la fois. Le télégraphiste, Hassel, enfin, paraissait être passé dans une machine à fabriquer les mâts. Sa taille démesurée, sa maigreur était presque pénible à voir. Sa tête ressemblait à une boule hérissée de quelques rares poils de barbe. Ses yeux brûlants étaient enfoncés sous un crâne chauve. Après la cinquième tasse de café, Joseph Grumman fit mine de vouloir se lever. « Nous avons malheureusement fort à faire aujourd'hui, marmonna-t-il. Tout d'abord une centaine de barils de pétrole à transporter pour les colons et un lot de peaux à rapporter en échange. Aylan et Alan piloteront chacun un Norseman, N-O-R-S-E-M-A-N, et moi je pense prendre le Junker. « Laisse-moi y aller aussi, pria John. Donne-moi une carte et je trouverai mon chemin. Cette tourpeau, je peux bien piloter un CB, S-E-A, plus loin B-2-E, c'est une sorte d'hydravion, ou un Piper Cub, P-I-P-E-R, plus loin C-U-B. C'est un petit avion léger. J'ai essayé les deux avant de partir au régiment. Tu resteras à la maison aujourd'hui, John. Nous essayons toujours de garder un homme ici au cas où il y aurait un transport d'ambulance ou quelque autre urgence. Pour le Piper Cub, le plein est fait. Il se trouve dans le hangar numéro 2. Le CB est amarré au bord du fleuve, derrière les baraquements. S'il arrive quelque chose, Hassel te donnera des instructions. Remets-toi de tes émotions et promène-toi. Mais ne te baigne pas dans le fleuve. Les peaux rouges prennent des baigneurs pour des fous. Joseph Grumman enfila son bleu et fourra sa barbe dans la quelure en guise d'écharpe. John monta dans sa chambre et défit ses bagages. Il entendit bientôt les avions décoller l'un après l'autre. Les deux Norsemen semblaient coléreux comme des guêpes, tandis que le Junker ronronnait avec calme. Le terrain d'aviation était ensoleillé, mais désert quand il y retourna. Assis sur l'escalier de sa cabine de télégraphiste, Hassel fumait sa pipe. John le salua gaiement et descendit au village. La boutique de Barter Hayes était fermée. John vit derrière les vitres sales un mélange d'objets hétéroclites. Quelques peaux rouges raccommodaient des filets, accroupis au bord du fleuve. Un cœur d'enfant sortait d'une hutte couleur de mousse. John aurait aimé voir à quoi ressemblait l'intérieur de cette école. Il maîtrisa son envie d'entrer et retourna sur le terrain en faisant un long détour. Il rejoignit le fleuve à l'endroit où commence la piste numéro 1. Le vieux peau rouge restait immobile, appuyé contre une balise rouge. John s'approcha et s'assit à même le sol. « Bonjour, monsieur Alaska. Merci de m'avoir salué. C'est moi qui ai atterri il y a une heure. » Le vieux tourna son visage ridé vers John et lui sourit. Des cheveux gris-argent tombaient sur ses épaules enveloppées d'une couverture. Il semblait regarder au-delà du temps et de l'espace. « Je sais bien que c'est toi qui es venu, » murmura-t-il comme s'il avait peur qu'on l'entendît. « Et bientôt tu seras à nouveau dans les airs. Il te faut retourner au plus vite près des maisons. Un message t'y attend. » Une dépêche très importante. John ne bougea pas. Le vieux était-il complètement fou? Vous devez vous tromper, monsieur Alaska. Aujourd'hui, c'est un jour de repos pour moi. Mais demain, j'espère pouvoir bondir comme une sauterelle. N'oubliez pas de me faire signe. Le vieux se pencha vers John, l'air inquiet, et lui prit le bras. Va, dit-il. Dépêche-toi. Quelqu'un a besoin de toi. Vite. Fin de la première piste de la première cassette, page 26, pilote de l'Alaska par Schwarzkopf.